L'histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin, livre 2, France temps favorable, chapitre 26e, François Ier et Clément VII, lutte de ruse autour. L'empereur, quand il apprit ces choses, commença à froncer les sourcils. Un éclair de lumière lui dévoila les desseins habiles de son rival, et aussitôt il entreprit d'empêcher cette dangereuse union. Charles Quint, François Ier, Henri VIII, le pape s'agitent à la pensée de ce mariage, et la petite Catherine est la Brézéis autour de laquelle se réunissent et combattent les plus grandes puissances de l'univers. L'empereur tâcha d'abord d'insinuer au pape des soupçons sur la mauvaise foi du roi de France. Cela n'était pas difficile. Clément VII n'osait, dit du Bellay, se tenir pour assuré que le roi voulut lui faire tant d'honneur. Le mariage d'Orléans serait certes très honorable. Le roi ne met ce propos en avant que dans l'intention de l'amuser, pour faire son profit de lui. Et si le pape rappelait les promesses d'Albany, de Gramont, de Tournon, les ministres Clément VII, qui cherchait toujours à tromper, était naturellement porté à croire que le roi faisait comme lui. L'empereur et les diplomates, voyant qu'ils avaient fait brèche, entreprirent un nouvel assaut. Charles demanda au pape la main de la jeune personne pour François Sforza, l'invention des moyens propres à assurer le succès de sa politique. En effet, cette union aurait le double avantage d'enlever d'un seul coup à la France Catherine et le Milanais. Charles insinuait à l'oncle qu'il ferait bien mieux d'accepter pour sa jeune parente un mariage réel que de courir après une ombre. « Cette offre est grande, dit Clément, et le parti est bon. Mais l'autre est si beau !» Et les progrès sont si avant que je ne puis prêter l'oreille à quelque autre offre sans offenser le roi. Clément VII était devenu difficile. Si les Médicis étaient issus d'un marchand, les Sforza descendaient d'un paysan, d'un chef de bande, d'un condottiere. Le pape faisait fi du duc de Milan. D'ailleurs, dit Guicciardini, il brûlait du désir de marier sa nièce au second fils de François Ier. C'était à cela qu'il revenait toujours. Charles Quint lui disait que François Ier voulait par son offre faire échouer la Ligue italienne et qu'alors le mariage échouerait. Empereur au pape, il y a un moyen très simple de vous éclaircir sur ce point. Demandez aux deux cardinaux de faire venir immédiatement de France la procuration nécessaire pour stipuler cette union. Vous verrez si cette proposition est autre chose qu'une fausse monnaie que l'on a fabriquée pour vous tromper. Les ambassadeurs français lui prodiguaient force paroles, mais il n'avait rien d'écrit. Verba volant. Le pape saisit l'idée que l'empereur lui suggérait. Si les pleins pouvoirs n'arrivent pas, la fraude du roi est dévoilée. S'ils arrivent, la partie est gagnée. Clément les demanda, rien de plus aisé, s'écrièrent Tournon et Gramont, et ils écrivirent en toute hâte à leur maître. François Ier fut saisi quand il reçut cette dépêche. Sa proposition était sincère, car il la croyait nécessaire à sa politique. Mais les discours de Charles Quint, de Henri VIII sur la fille des marchands de Florence, l'étonnement de l'Europe, unanime à se récrier sur une si grande disparité de degrés et de conditions, lui allaient au cœur. Lui, il voulait ne procéder que lentement, pas à pas, et mettre entre chaque pas un long intervalle. Si Charles Quint, qui était impatient de se rendre en Espagne, quittait l'Italie sans l'avoir liguée contre la France, alors, nouveaux faits, nouveaux conseils, on verrait. Mais maintenant, le voilà mis au pied du mur. La question doit être résolue. Catherine de Médicis viendra-t-elle s'asseoir sur les marches du trône de Saint-Louis ou demeurera-t-elle en Italie ? Continuera-t-elle à prendre d'abominables leçons de son parent Alexandre de Médicis, détestable prince, qui exilait, confisquait, emprisonnait jusqu'aux membres de sa famille et s'adonnait aux plus honteuses débauches? Ou bien viendra-t-elle en France commencer à mettre en pratique ses enseignements au milieu du peuple de son adoption? Il fallait se résoudre. Le courrier attendait. Une chose décida le roi. Son ancien geôlier, l'empereur, disait que cette proposition de mariage était une tromperie. Si François refusait ce que le pape demandait, l'ambition de François fut plus forte que sa vanité, et prenant une résolution désespérée, quand ils arrivèrent à Bologne. D'Albany, Gramont, Tournon, Triomphant les portèrent au pape et le pape les communiqua immédiatement à l'empereur. Celui-ci lut cette procuration qui contenait la clause expresse de conclure le mariage du duc d'Orléans avec la duchesse d'Urbain et se trouva moult ébahi. « Vous le voyez, lui dit Clément, il n'y a aucune porte cachée par où l'on puisse s'échapper. » Charles ne pouvait le croire. Le roi, dit-il au pape, n'a envoyé ce papier que pour mine. Si vous pressez les ambassadeurs de tirer avant et de conclure le traité, ils ne voudront aucunement entendre. On n'avait eu jusqu'à présent que des paroles, on n'avait maintenant que du papier. Les nouveaux propos furent communiqués au duc d'Albany et aux deux cardinaux. Nous nous offrons, répondirent-ils, de stipuler immédiatement toutes les clauses, conditions et conventions qui doivent entrer dans le contrat. Clément VII respira. Il croyait à l'étoile des Médicis. Si elle avait mis ses ancêtres, les marchands florentins, à la tête de leur peuple, elle pourrait bien faire monter Catherine, nièce de deux papes, fille, petite-fille de duc, sur le trône de France. Il apprit à l'empereur que tout était arrangé et que l'on s'occupait à stipuler le contrat. Clément rayonnait de joie. L'empereur commença à croire l'affaire sérieuse et fut étonné, dit du Bellay, et surtout désolé de se voir frustré dans son intention, qui était d'entraîner le Saint-Père contre le roi. Charles comprit que l'impétuosité de François Ier avait vaincu ses propres lenteurs. Il supposa cette détestable pratique. « Puisqu'il en est ainsi, dit-il, je requiers au moins votre première fois que vous me parlâtes de ce mariage. » Clément parut surpris et demanda lesquels. « Vous m'avez promis, dit Charles, que le roi s'engagerait, premièrement, à ne rien changer en Italie, secondement, à confirmer les traités de Cambrai et de Madrid, troisièmement, à consentir au concile, quatrièmement, à faire promettre au roi d'Angleterre de ne rien innover dans son pays avant que l'affaire de son divorce fût réglée à Rome. » Jamais le roi de France n'eût consenti à de telles conditions. Le pape s'effraya. Échouerait-il au port? Je n'ai rien promis de semblable, s'écria-t-il avec vivacité. Le Saint-Père, dit du Bellay, niait formellement avoir jamais ouï parler de ces choses. L'altercation menaçait d'être vive entre les deux chefs de la chrétienté. Lequel des deux était menteur? Il est probable que le pape avait dit quelque chose de ce genre, mais seulement pour la forme, afin d'adoucir Charles et sans vouloir le tenir. Ce fut lui qui s'apaisa le premier. Il détestait l'empereur, mais il le ménageait. Il offrit toutefois de s'employer à ce que toutes choses demeurassent en bonne paix. L'empereur, maître en dissimulation, voulut cacher son chagrin, mais sans y parvenir. Ce malheureux mariage déjouait tous ses projets. François avait été plus fin que lui. Qui l'eût jamais pensé? Le roi de France avait sacrifié l'honneur de sa maison, mais il avait vaincu son rival. Décontenancé, ennuyé, abattu, Charles promenait çà et là sa figure sombre et allongée, quand une circonstance inattendue vint lui rendre l'espoir de brouiller de nouveau et complètement le pape et le roi de France. Nous avons vu les pourparlers qui avaient eu lieu entre Clément et Charles à l'occasion du Concile universel. L'empereur le demandait au pape pour réduire les hérétiques à l'union de la Sainte Foi et il remarquait que si on ne le faisait, il était à craindre que les 10 hérétiques s'unissent avec le Turc, qu'il se creusent. Qui plutôt, ajoutait Charles Quint, est mahométique et causerait la ruine chrétienne. Le pape, qui se préoccupait beaucoup plus de lui et de sa famille que de l'Église, s'était refusé à cette demande. Il avait souri en voyant le zèle du grand potentat pour la question religieuse, évangélique. Clément VII, lui, ne s'occupait jamais de l'Évangile. L'Évangile des Médicis. Il le savait par cœur. Surtout, il le mettait admirablement en pratique. Clément et Catherine furent ses plus dévoués sectateurs et ses plus illustres héros. Le roi de France avait une politique tout aussi intéressée, mais plus franche, plus honnête. Tout en s'unissant politiquement au pape, il n'entendait pas se mettre ecclésiastiquement sous sa tutelle. Et voulait à la place de l'élément papal faire prévaloir dans la société chrétienne l'élément séculier. La puissance hiérarchique avait eu pendant un si grand nombre de siècles le premier pas en Europe. Il était temps qu'elle le cédât à la puissance politique. François Ier leurs deux avis et en établit un troisième dont l'énonciation remplit l'empereur d'étonnement et le pontife d'effroi. C'était l'une des conceptions les plus grandes, les plus originales, les plus hardies des temps modernes. On y reconnaît le génie de Du Bellay et toutes les aspirations d'une ère nouvelle. Il est vrai, dit le roi de France, comme l'affirme le Saint-Père, la convocation d'un concile a ses dangers. D'autre part, les raisons de l'empereur pour en convoquer un sont fortes à considérer, car les affaires de la religion sont réduites à de tels termes que sans le concile, elles tomberont dans une immense confusion d'où il résultera de grands malheurs et un grand blâme pour le Saint-Père et pour tout prince chrétien. Le pape a raison. Et de prévenir tous les périls qui nous menacent. Que tous les potentats chrétiens, quelle que soit leur doctrine particulière, le roi d'Angleterre, les princes protestants de l'Allemagne et autres et puis envoie chacun le plus tôt possible à Rome des ambassadeurs munis d'amples pouvoirs pour discuter et rédiger d'un commun accord tous les points dont il faut parler au concile. Ils auront pleine liberté de mettre en avant tout ce qui leur viendra en fantaisie pour l'union, le bien, le repos de la chrétienté, le service de Dieu, la répression des vices, l'extirpation des hérésies, la conformation de notre foi. Il ne sera point fait mention des remontrances de notre Saint-Père, ni des décisions des conciles antérieurs, ce qui donnerait à plusieurs une occasion ou une excuse pour ne pas s'y trouver. Les articles étant ainsi rédigés par les représentants des divers états de la chrétienté, chaque ambassadeur en apportera en étant ainsi bien instruits de ce qu'ils ont à dire. Si ceux qui se sont séparés de l'Église romaine s'accordent avec les autres, ils prendront ainsi le chemin du salut. S'ils ne s'accordent pas, ils ne pourront du moins nier qu'ils se soient refusés à la raison et au concile qu'ils ont tant demandé. Cet acte est l'un des plus remarquables de ceux que nous rencontrons dans les rapports de la France avec Rome. On ne l'a pas suffisamment signalé. François Ier faisait alors un pas immense. Persuadé que les temps nouveaux devaient marcher dans de nouvelles voies, il inaugurait une grande révolution. Il émancipait même, quant aux choses religieuses, la puissance politique et voulait qu'elle primât en tout la puissance pontificale. Si sa pensée se réalisait, ce ne serait plus au Vatican que se décideraient les grandes questions ecclésiastiques, mais dans les cabinets des princes. Certes, ce système n'était pas le vrai. Et pourtant, un grand pas était fait dans le sens du progrès. Un principe nouveau allait influer sur les destinées de l'Église. Jusqu'à présent, l'élément clérical y avait seul régné. Maintenant, l'élément laïque réclamait sa place. La société nouvelle ne voulait pas que les prêtres seuls gouvernassent les chrétiens comme les bergers seuls mènent les moutons. Mais je le répète, ce système n'était pas encore le véritable. Les questions chrétiennes ne doivent être décidées ni par le pape, ni par le prince, mais par les ministres de l'Église et par ses membres, comme autrefois à Jérusalem, par les apôtres, les anciens et les frères. Acte 15, 23. Nous avons pour cela l'autorité de la parole divine. Cette voie évangélique est interdite à l'Église catholique romaine. Elle a peur de toute assemblée chrétienne où l'on tient compte de l'avis des fidèles et se trouve misérablement prédestinée à osciller sans cesse entre les deux grands pouvoirs, le pape et le roi. Ce fut peu avant la fin de février que l'empereur reçut à Bologne l'étrange avis du roi de France. Ayant échoué dans ses efforts pour empêcher le mariage d'Orléans, il était alors occupé à former la Ligue italienne et se préparait à partir pour l'Espagne. Charles, au pape, au clergé, leur autorité exclusive, absolue, ne serait-ce pas, pensa-t-il, l'enlever aussi au roi? Il lui semblait que la papauté rendait impossible la liberté, non seulement dans l'Église, mais encore dans le peuple. François Ier, ou plutôt du Bellay, avait cru que Charles Quint dirait, comme l'a dit un de ses successeurs, « Mon métier mais, soit que Charles voulût profiter de cette occasion pour repêcher le pape qui s'était jeté dans les eaux de la France, soit qu'il obéît simplement à sa nature catholique espagnole et aux besoins qu'il avait d'une puissance illimitée, il repoussa la proposition de François. « Quoi, dit-il, les ambassadeurs des princes et potentats chrétiens projetteront préalablement les points dont il sera traité au concile, mais ce serait de plein seau diminuer son autorité. Tout ce qui se traitera au concile doit entièrement dépendre de l'inspiration du Saint-Esprit et non de l'appétit des hommes. » Cette réponse contraria fort François. Sa proposition échouant, elle devenait une arme dans les mains de son rival pour le perdre. Aussi, chercha-t-il aussitôt à se justifier. « Je ne puis assez m'émerveiller, dit-il, de ce que dans le but de me calomnier, on a déguisé mon avis à l'empereur. Faire traiter cette affaire par des ambassadeurs qui peuvent arriver promptement à Rome, n'est-il pas plus raisonnable que d'attendre un concile qui s'assemblera au plus tôt dans un an ? Et quant à ce que tout doit dépendre du Saint-Esprit, certes ma réponse a été malignement, sinistrement interprétée. Car puisque nous enverrons des ambassadeurs mus d'une sincère affection pour l'Église, n'est-il pas évident que leur assemblée ne pourra être sans le Saint-Esprit ? Ainsi le roi, pour se défendre, s'abritait sous l'inspiration de ses diplomates. On peut bien admettre que le Saint-Esprit fût moins avec le pape qu'avec le roi, mais il n'était en réalité ni avec l'un, ni avec l'autre. Ainsi échoua pour le moment l'idée de François Ier. Elle était l'ordre du temps. Ce fut en 1562, quand le concile dont il était en question et qui commença à Trente en 1545 se réunit pour la troisième fois, que cette nouvelle manière d'être fut introduite dans la catholicité romaine. On ne pouvait alors s'entendre, les députés italiens voulant tout maintenir et les députés allemands et français demandant des concessions importantes dans le but de concilier les protestants et leurs cours. Il y avait des luttes, des plaisanteries, des querelles. On en venait aux mains dans les rues. La majorité du concile était irritée de ce que les légats romains attendaient régulièrement pour se prononcer que le courrier de Rome fût arrivé. Le Saint-Esprit, disaient les Français qui déjà alors aimaient à plaisanter, le Saint-Esprit vient à Trente en valise. L'assemblée allait se dissoudre. La papauté, obligée de choisir entre deux maux, résolut de s'entendre avec les princes. Le pape accorda qu'on traitât préalablement dans les cours séculières les questions importantes, abandonnant au concile les questions secondaires, pourvu qu'on témoignât toutes sortes d'égards à la papauté. Rome triompha dans les murs de Trente, mais elle y cessa d'être une hiérarchie pure. L'élément politique a primé dès lors ses conseils et la papauté est tombée toujours plus dans la dépendance des puissances du siècle. Le plan de François Ier est en partie réalisé. Toutefois, il y aurait un autre pas à faire. À la place du vote complaisant des rois, il faudrait établir sur le trône de l'Église la parole souveraine et inflexible de Dieu. Charles Quint espérait que l'étrange avis du roi de France porterait Clément VII à entrer dans la Ligue italienne, mais le pape se montrait peu susceptible quand il s'agissait des choses religieuses. Toutefois, l'empereur étant fort impatient, Clément résolut de lui donner cette légère satisfaction. Pourquoi se refuserait-il à entrer dans une ligue dont le but dans lesquels il s'engageait à donner à la France Parme, Plaisance, Urbiu, Reggio, Livourne, Pise, Modène, même Milan et Gênes. Il n'y avait donc aucune raison pour que le digne oncle de Catherine ne signât avec Charles un autre traité qui il comprendrait que c'était simplement un procédé honnête, une mesure diplomatique. Le mariage de la nièce du pape faisait tant de peine à ce pauvre empereur. Il fallait bien lui donner cette consolation. D'ailleurs, le pape, en donnant sa signature à Charles Quint, faisait, à ce qu'il pensait, une chose très propre, car il n'avait pas la moindre intention de tenir à François Ier les promesses que Charles était prêt. Chevaux, mulets, carrosses, valets, officiers, seigneurs, tous attendaient le moment du départ. Les navires qui devaient transporter ce prince puissant et sa cour en Espagne se trouvaient dans le port de Gênes et n'avaient plus qu'à lever l'ancre. Ce jour même avait été fixé pour signer l'acte de la Ligue italienne. Les hauts et puissants contractants se réunirent dans le palais de Bologne. Le document fut lu à haute voix, en présence des délégués des princes et puissances de l'Italie qui y étaient compris. Chacun dit oui, les signatures furent apposées, et Médicis s'empressa d'y mettre son nom, se promettant bien de signer sous peu un autre contrat avec le roi de France. Tout semblait devoir se passer dans les règles, et sans que Charles Quint laissât percer son dépit. Ce prince, qui savait si bien se contenir, donna toutefois une scène au grand personnage qui l'entourait. S'adressant au pape, il lui demanda le chapeau de cardinal pour trois de ses prélats. C'était, pensait l'empereur, une petite gratification que Clément pouvait bien lui faire. Mais le pape n'accorda qu'un chapeau. Aussitôt, l'ambassadeur de France s'approcha et en demanda aussi un de la part de son maître pour Jean, évêque d'Orléans, oncle du duc de Longueville, ce qui fut accordé. Alors le même ambassadeur, prenant courage, demanda aussi le cardinalat, sans désemparer, en faveur du roi d'Angleterre pour l'évêque de Worcester. C'était trop pour Charles Quint. Quoi ? Une faveur pour un roi qui renvoie sa tante Catherine, qui se brouille avec le pape, qui se jette dans le schisme ? L'empereur prit cette requête, dit du Bellay, merveilleusement en mauvaise part. Certes, dit-il à ceux qui l'entouraient, nous pouvons bien voir que les affaires de ces deux rois vont tout d'un branle, que l'un ne fait pas pour l'autre moins que pour soi. Puis, sortant de sa réserve ordinaire, Charles Quint déclara ouvertement sa désapprobation. Cette requête d'un chapeau pour l'Angleterre, dit-il, me vient plus à déplaire et plus à contre-cœur que si monsieur l'ambassadeur de France en avait demandé quatre pour son maître. Les diplomates présents ne pouvaient détourner leur regard de dessus voir un sentiment quelconque et surtout de la mauvaise humeur sur les traits de ce puissant monarque dont toutes les paroles, toutes les actions, résultat d'une froide réflexion, étaient calculées avec art. Mais nul ne s'en réjouit autant que l'envoyé d'Angleterre, Hawkins. L'empereur est parti d'ici tout ce qu'il a fait a été de renouveler une vieille ligue pour n'avoir pas l'air d'être venu inutilement à Bologne. Charles avait hâte de sortir de cette ville où il avait été joué par le pape et fait échec et mat par le roi, et se repentait déjà d'avoir laissé éclater son dépit. Il descendit l'escalier du palais, se jeta dans sa voiture et partit pour Milan, où avant de se rendre à Gênes et en Espagne, il avait quelques affaires à régler. C'était, comme nous l'avons dit, le vendredi 28 février. Le pape resta encore 10 jours à Bologne. Il était question d'une entrevue qu'il devait avoir avec le roi de France. Il lui en avait déjà écrit de sa main. Le nonce du pape avait proposé au roi que l'empereur en fût aussi. « Pourvu, répondit François, que le roi d'Angleterre soit le quatrième. » Moi de ma part, continua ce prince, et le roi d'Angleterre de la sienne, nous ne voudrions, crainte de surprise, nous trouver à l'entrevue qu'avec forces égales à celles de l'empereur. Or, il pouvait advenir qu'étant ensemble trois forces de princes assez peu amis, au lieu de confirmer une paix, nous commencerions une guerre. On revint donc à la conférence à deux, pendant laquelle le mariage se conclurait. On avait d'abord choisi Nice pour le lieu du rendez-vous. Mais le duc de Savoie, qui n'aimait pas voir les Français à Nice, s'y refusa. « Eh bien, dit le pape, j'irai à Antibes, à Fréjus, à Toulon, à Marseille. »François, de son côté, désirait que le pape qui avait attendu l'empereur en Italie vînt le chercher lui. Il était fort sensible. Marseille fut désigné. Maintenant, tout était en règle. Était expressément stipulé. La cérémonie du mariage devait se célébrer avec pompe dans la ville des Phocéens. Le pape était au comble du bonheur, et la jeune fille avait des yeux tout brillants. Le sort en était jeté, Catherine de Médicis s'assiérait un jour sur le trône de la France. La Saint-Barthélemy était dévolue à cette noble contrée, le sang des martyrs coulerait par torrents dans les rues de Paris, et les rivières charrieraient à travers les provinces de longues et muettes processions de cadavres dont le lugubre silence crierait jusqu'au ciel. Mais cette époque était encore éloignée.